attends, j'ai oublié un truc.
Qu'est-ce que c'était?
C'est.
Ça paraît des mots, mais c'était pas des mots.
De toute évidence, Adam invente alors l'hébreu.
Avec la langue.
Oh, je sais plus.
Je pensais que vous me dites que nous parlions en japonais.
Avec la langue.
Oh, j'ai sur le bout de la langue, ça m'énerve.
Tire ta langue, une émission d'Antoine Perrault, réalisée par Laetitia Coya.
Alors avant, Babel, le langage véritable de Dieu et d'Adam est le chinois.
Linguam nostram, in qua nati sumus.
Mon métier de linguiste n'est ni de me faire le chantre d'une langue commune, en l'occurrence l'anglo-américain, ni de faire entendre des accents de Cassandre, d'être une Cassandre à cocarde.
Avoir sa propre langue comme un trésor et pas comme une prison.
Pour la dernière émission de la saison, traditionnellement dévolue à une forme de légèreté associée à la période estivale, je voudrais me permettre un retour à une certaine gravité hivernale. Les attentats de Paris, janvier 15. L'occasion en est offerte par un livre collectif consacré au sarcasme, à l'iconoclasme, à la provocation, qu'a bâti notre invité de ce dimanche, Patrick Charaudeau, pour une maison d'édition Cise à Limoges, Lambert Lucas, Humour et engagement politique. L'engagement de l'humoriste est-il artistique, est-il politique, est-il les deux à la fois? Y a-t-il des limites à sa liberté d'expression? Voilà les questions soulevées par un ouvrage qui s'intéresse en particulier à la caricature en France, en Espagne et sur la rive sud de la Méditerranée, à la lumière de ce qu'on a pu appeler les printemps arabes, expression qui ne semble valoir pleinement que pour la Tunisie, où fleurit une liberté d'expression à la mesure de la censure qui n'avait que trop sévi du temps de Ben Ali. À noter une contribution qui tente de jauger et de juger le degré de conscience politique des amuseurs publics du XXIe siècle, une bouffonnerie désengagée, du comique anti-système à la critique hyper personnalisée. C'est signé Nelly Kuhnemer de l'Université Sorbonne Nouvelle. Nous y reviendrons peut-être en fin d'émission, Patrick Charaudeau. Vous êtes professeur émérite à l'Université Paris 13 et fondateur du Centre d'analyse du discours. Vous êtes associé au laboratoire communication et politique du CNRS et votre propre contribution dans ce volume « Humour et engagement politique » mérite que tire ta langue s'y attarde. Vous vous penchez sur un sujet problématique entre tous, Dieudonné Mbala Mbala, né en 1966 d'une mère bretonne et d'un père camerounais, devenu symbole de bien des symptômes et de bien des fantasmes, comique un jour, comique toujours, même lorsque ses charges s'avèrent tragiquement nulles. Il y a chez lui une vis comica indéniable, un talent qui devient circonstance aggravante lorsqu'il se fait le truchement aussi rageur qu'efficace d'un spectre qui hante l'Europe faisandée en crise, le complotisme antisémite. Alors, ce Dieudonné auquel on ne prête plus oreille faute de savoir par quelle boule prendre, vous avez tenté d'y entendre plus clair, Patrick Charaudeau. Quelle définition, fût-elle souple, voire évolutive ou fluctuante, donneriez-vous de ce sinistre farceur qui fait tant se tordre en certains parages, secteurs et alentours? Patrick Charaudeau.
Un merveilleux histrion, un merveilleux comique qui part du contrat humoristique, va vers le contrat politique et finit par mélanger la scène de l'humour avec la scène d'un meeting politique. Il me semble que c'est cela que j'ai essayé de montrer dans cette analyse, comment s'est fait le passage de l'un à l'autre et comment l'autre, c'est-à-dire finalement la scène politique et ce qu'on pourrait même appeler la scénographie politique, a fini par polluer la scénographie humoristique.
Ce qui m'étonne, vous connaissez les mots que tout autre, Patrick Charaudeau, c'est ce terme de merveilleux. Le merveilleux, c'est un genre littéraire au Moyen-Âge. Pourquoi vous parlez de merveilleux? Est-ce lié au fantasme? Pourquoi dites-vous merveilleux à propos
parce de Dieudonné? Parce que je pense, pour avoir assisté à presque, je pourrais dire, clandestinement, à certains de ces spectacles et avoir visionné tous les spectacles que l'on pouvait visionner, parce qu'il y a quelque chose de magique, d'absolument magique, chez Dieudonné, lorsqu'il joue. Mais lorsqu'il joue, il se pénètre lui-même de ses personnages, ce qui d'ailleurs va poser problème à partir du moment où il va commencer à déraper. Le caricaturiste Lou, dessinateur, il préfère qu'on dise, qui est également dans ce volume, qui a parlé dans ce volume, par exemple, dit que c'est un extraordinaire acteur. Effectivement, c'est un extraordinaire acteur et qu'il fait partie de ces humoristes qui, quand ils font un sketch, vous font confondre la personne et le personnage. Il cite d'ailleurs d'autres humoristes hein, qui ont cette même vertu. Et effectivement, je crois que ça n'est pas Dieudonné quitus de tout le reste, mais je crois que effectivement, on ne peut pas nier. Il y a un sketch d'ailleurs absolument extraordinaire où à un moment donné, il dialogue avec une espèce de dieu qui rentre d'un seul coup dans son corps et il se met à s'agiter d'une façon telle qu'on a vraiment l'impression qu'à ce moment-là, il est possédé par ce dieu. Donc, c'est en tant que, quand je dis merveilleux, c'est parce qu'il y a quelque chose de magique hein, dans cet acteur. C'est-à-dire que là, je vois le côté presque plus acteur. Je ne m'intéresse pas pour l'instant au contenu de ces sketchs, mais en tant que prestation sur une scène, effectivement, il est en tout cas magique, si vous n'aimez pas le terme de merveilleux.
Non, mais Patrick Charaudeau, je suis d'accord, il y a quelque chose de puissamment efficace, presque parfois chamanique, souvent délirant,
oui,
qui me fait penser curieusement à Céline. Et je crois que c'est en lisant, en écrivant, Gracq dit que Céline s'est laissée entraîner par son clairon, vous voyez. Et quand on lit, je ne parle pas de Bagatelle pour un massacre qui est ignoble de bout en bout, mais quand on lit par exemple Les Beaudrats, ce pamphlet de Céline, le début est extraordinaire. Il raconte la défaite des armées françaises. Il se moque de la France qui vient de s'effondrer et tout à coup, bing, c'est la faute des Juifs. Et ça devient complètement fou, ignoble, délirant, surtout quand on sait ce qui arrive. Et on a l'impression qu'il y a eu le même déclic chez Dieudonné pour des raisons différentes.
Il y a un côté possédé. Effectivement, il y a un côté possédé et qui malheureusement, donc peut avoir ses effets magiques en tant qu'acteur et peuvent avoir des effets vraiment désastreux. Possédé plutôt par un diable. Il y a une espèce de diable là qui le possède et on sait très bien hein, que le diable a toujours une double face. Hein. Il est le grand séducteur comme il peut être l'ordonnateur de toutes les plus grandes catastrophes.
Eh bien, je vous propose, Patrick Charaudeau, d'écouter un premier extrait où le diable n'est pas encore si présent. On est plutôt dans une veine coluchienne. Il s'agit d'un drogué, fils d'un père alcoolique, ici évoqué.
Mon père, lui, il s'en foutait, mon père. Mon père, il s'en foutait à l'époque, lui, il tournait facile 15-20 litres au sang, mon père. Il est mort à 30 ans, mon père. Il voulait pas être enterré, il avait demandé qu'on le trempe dans du Ricard et qu'on le fait cramer. Parce que l'alcool, c'était toute sa vie, hein, mon père. Il tournait avec tout ce qui lui tombait sous la main. Ricard, tequila, white spirit. Jusqu'au super sans-plomb. C'est ça qui l'a tué, mon père. 6 francs de litre.
Alors là, Patrick Charaudeau, nous sommes presque dans le proto-Dieudonné.
Mais écoutez, c'est dommage qu'on n'entende que le son. car il faut le voir en scène, il faut le voir sur scène, faisant ce sketch. Et là, c'est une illustration parfaite de ce que je viens de dire, car l'attitude corporelle qu'il prend, la façon qu'il a de parler, il est tout à fait dans la peau et il nous fait vivre ce personnage qui est à moitié drogué, pas très évolué, pas très intelligent, qui a des fulgurances de lucidité, etc. Et qui là, véritablement, joue ce rôle-là de quelqu'un qui va nous mettre en empathie un peu avec ce personnage, bien que ce personnage, finalement, est un personnage drogué, c'est horrible ce qui lui arrive, mais il nous met dans un rapport qui n'est pas du tout, qui est vraiment un rapport de partage, car l'humour, c'est ça, hein, c'est un acte de partage. Là, il nous met dans un rapport de partage d'un univers qui n'est pas possiblement acceptable pour l'être humain, que finalement on finit par prendre en compassion. Et c'est ça, la magie de l'acte humoristique quand il est bien vu.
Mais c'est une activité, vous avez dit, quasiment clandestine quand vous êtes allé au théâtre de la Main d'Or où il se produit, Patrick Charaudeau. C'est une activité qui vous a pris la retraite venue ou déjà ce corpus, alors que vous étiez dans l'Alma Mater, à Paris 13, je rappelle, vous chatouillez?
Ah ben écoutez, je suis linguiste, m'intéressant au système de la langue, analyste de discours, m'intéressant et étudiant les usages que l'on fait de la langue et donc avec ses composantes psychologiques et sociales, et puis aussi sémiologue, c'est-à-dire m'intéressant à toutes les formes de signes. Et évidemment, comme l'humour est une affaire de langage par excellence qui passe par un corps, je ne pouvais que m'intéresser à cet objet, si on peut parler d'objet. Et puis, il y a tout un historique là-dedans. C'est que, en plus, j'ai été amené à faire à l'époque mon séminaire de doctorat sur l'humour, et puis il y avait des étrangers et je découvrais que finalement l'humour a une composante culturelle, donc du coup on a monté un programme de recherche avec les Espagnols qui s'est fait en deux fois avec l'université Complutense de Madrid, puis ensuite avec l'Université Autonome de Madrid, pour essayer de comparer l'humour français et l'humour espagnol. Alors, c'était assez extraordinaire, parce que quand on amenait notre corpus, les Espagnols disaient « bon, et alors quoi ?» Et quand les Espagnols nous montraient leur corpus, on disait « bon, et alors quoi ?»
Oui, mais vous aviez Bedos de Vos, par exemple. Qu'est-ce que vous allez chercher du côté de Dieudonné, Patrick Charaudeau ?
Ah ben parce que justement, ça nous permet de voir qu'il y a plusieurs types d'humour. Écoutez, grosso modo, on peut dire qu'il y a trois grands types d'humour. Hein. Il y a un humour... D'ailleurs, je préfère parler d'acte humoristique, parce que le terme humour a tellement eu de définitions, a tellement été défini par différents acteurs, philosophes, littéraires, etc. L'acte humoristique purement ludique. Ça, c'est le jeu de mots qu'on lance dans une conversation pour détendre l'atmosphère, pour créer une complicité, etc. Et puis, il y a l'humour qu'on pourrait appeler s'intéressant à la destinée humaine. Par exemple, c'est pour moi le cas emblématique, c'est bien De Vos, c'est-à-dire que en parlant de choses du quotidien, on découvre quelque chose de la nature humaine. Hein, vous savez, il a un sketch où il décrit des choses bizarres. Hein, et il dit il y a des choses bizarres quand même. Il y a mon pied gauche qui est jaloux de mon pied droit, donc il avance. Mais comme mon pied droit veut pas en être de reste, il passe devant le pied gauche et puis le pied gauche, etc. Et moi, comme un imbécile, je marche. Bon, eh bien, cette simple petite description, ou alors quand il dit « je commande un demi, j'en bois la moitié, il en reste encore ». Eh bien, ce genre de vision sur le monde, à partir des faits du quotidien, hein, vous dit quelque chose sur la condition humaine. Ça, c'est un autre type d'humour. Et ensuite, je dirais qu'il y a un troisième type d'humour, qui est l'humour de Bedos, par exemple, qui est celui de la critique sociale, en général, puis la critique politique, etc. Et alors, il s'est trouvé que Dieudonné, là-dedans, quand j'ai tout visionné, eh bien, je me suis aperçu qu'effectivement, au départ, il était sur... il a toujours été dans la critique sociale, parce que on sait qu'il avait comme projet d'essayer de... Enfin, il avait comme projet de revendiquer ce qui est arrivé durant les siècles d'esclavagisme. Mais au départ, il avait tout un tas de cibles différentes, de personnages différents, et il était dans une critique sociale générale jusqu'au moment bon, où il s'est mis à avoir des obsessions. Donc, pour moi, c'est un cas emblématique de ce qu'est l'humour entre contrainte, limite possible et effet pervers. Voilà pourquoi je m'y suis intéressé.
Eh bien, nous allons retrouver Dieudonné, qui est, comme disent les journalistes, à la croisée des chemins. C'est un sketch extraordinaire où il campe, interviewé par une pseudo-journaliste. Il campe un potentat corrompu de l'Afrique post-coloniale. Le voici en président africain.
Je suis rentré, j'avais 18 ans. J'étais tout jeune apprenti président, j'ai gravi les échelons, je suis devenu président maréchal, voilà. Bientôt président empereur. Nous avons changé la constitution il y a 6 mois, voilà. Maintenant je suis président à vie. Le peuple m'a demandé, j'ai dit ça va, on fait comme ça. Beaucoup même me disaient, même mort, il faut rester président. Ah, je dis non, comment? Non, non, non. Ça n'est pas démocratique. Non, non, non. Je peux rester président mort 1 mois. Voilà. Après, il faut que mon fils vienne là comme ça.
Moi, j'y vois deux choses. Hein.
Patrick Charouille.
C'est qu'il est, en termes de forme d'humour, il est là dans l'autodérision. C'est-à-dire qu'il est lui-même, il n'imite pas l'accent africain. Il est lui-même africain. Il se remet dans ce personnage africain. Bon, on sait que ses origines sont doubles, mais il se met dans ce personnage africain. Et effectivement, tous les stéréotypes qui laissent entendre qu'il s'agit de dénoncer quelque chose. Parce que ce qui est intéressant dans l'humour, hein, c'est quand il n'est pas explicite. C'est dans tout ce qu'il suggère, hein, que l'humour est intéressant. Surtout l'humour, même l'humour des caricatures d'ailleurs. Et là, en jouant ce personnage du président africain lui-même corrompu, se voyant ad vitam aeternam, et si c'est pas ad vitam aeternam avec sa lignée de descendance, etc., ayant toujours la puissance, le pouvoir, avec l'aide de la France-Afrique, etc. Voilà, on peut trouver ça dans Le Canard enchaîné, on peut trouver ça dans Charlie Hebdo, mis en scène d'une certaine façon, avec ce jeu d'autodérision. L'autodérision, quand même, c'est ça. Hein. La dérision, c'est présenter ce qui se croit important en le faisant descendre de son piédestal. Hein. C'est l'aiguille que l'on met dans le ballon de baudruche et qui... c'est le bon cul de Zazie. Hein, qui d'un seul coup fait descendre de son piédestal ce monsieur très important en lui disant mon cul. Et donc là, il joue la dérision, mais en plus l'autodérision, puisqu'il est lui-même africain.
Mais cette autodérision semble ensuite laisser place à une sorte de pacte comique, beaucoup plus sérieux, si j'ose dire, puisqu'on a l'impression que Dieudonné crée une forme d'esprit communautariste surchauffé qui en vient à se déchaîner contre le supposé communautarisme juif. Et là, finit l'autodérision, non, Patrick Charaudon?
Oui, mais c'est ça le problème. Je n'ai pas noté précisément la date depuis. Bon, c'est pas intéressant de donner une date précise, mais enfin, on voit ce glissement qui s'est produit. Curieusement, d'ailleurs, dans une dénégation totale de sa part, se disant, déclarant qu'il n'est pas antisémite, que simplement il veut qu'on n'oublie pas ce qu'ont été des siècles d'esclavage, etc. Et pourtant, il ne peut pas s'empêcher, dans ses sketchs, je crois l'avoir montré par tous les extraits que j'ai donnés, il ne peut pas s'empêcher de... parler de ce qu'il appelle la juiverie. Alors là, il faut quand même entrer un peu dans le détail, parce que sinon, c'est nous qui allons essentialiser en disant « voilà, il est antisémite ». Je crois que c'est pas aussi simple que ça, qu'il faut vraiment prendre toutes ces déclarations. Il n'y a absolument aucun doute comme quoi, malheureusement, il est entré dans une attitude prosélyte. Malheureusement, il a confondu la scène humoristique avec une scène de meeting politique, ce qui du coup le discrédite. C'est tant pis pour lui, ou alors il en a pris le risque, mais enfin de toute façon c'est tant pis pour lui. Et ce glissement se fait quand même de façon qu'on ne peut pas caricaturer. À notre tour.
Alors, justement, écoutons un ultime extrait qui illustre, me semble-t-il, ce glissement dont vous allez nous parler, Patrick Charaudeau. Il est là, Dieudonné, dans un processus qui me semble être de victimisation délirante, haineuse et mimétique.
L'humour tel que je le pratiquais, il faut être honnête, c'est terminé. Non, mais je le lis, hein. Le côté fait à la main, comme ça, usiné, non, c'est terminé. On s'est fait bouffer par les grandes surfaces, faut être honnête. Hein. Gad Elmaleh, Carrefour, mais je veux dire... Surgelé, c'est le surgelé. Non, mais c'est ça, c'est la marquette. Mais non, mais c'est fini. On est un petit groupe, on essaye de résister, mais ça reste marginal. Moi, j'ai essayé de me recycler dans le commerce, enfin le commerce, oui, plus ou moins, le rire ambulant. Je sais pas si t'imagines. Je suis dans le rire ambulant. C'est-à-dire que j'ai acheté un autocar scolaire. Non, mais c'est pas... Ne ris pas. C'est la vérité, ce que je suis en train de te dire. Et je fais parce que sous la pression du CRIF, on est tout en haut. Hein. Là, je ne cache pas que c'est décidé en Israël directement. Hein. Et là, moi, ils veulent éradiquer mes spectacles. Hein, y a un projet de solution finale. Et concernant ma liberté d'expression.
Bien, cet exemple montre vraiment...
Patrick Charaudeau.
C'est plus qu'un glissement, c'est complètement... C'est une rupture, je pense. Hein, parce que même dans sa façon... d'être sur scène, dans sa façon d'interpeller le public, d'avoir l'air de dialoguer avec le public, dans sa façon de faire des allusions constantes et qui font souvent écho à des allusions qu'il fait hors scène sur l'Holocauste, la Shoah, le CRIF, etc. C'est ça qui fait cette interférence constante, hein, entre un discours qui devient carrément politique, et alors politique, évidemment engagé d'une certaine façon, hein, à la fois populiste, des relents antisémites, anti-islamique de temps en temps, mais beaucoup moins quand même, encore qu'il a un sketch là sur les fameuses vierges et les Palestiniens, etc. Mais enfin bon, on voit bien qu'il est plus pro-palestinien que pro-israélien. Donc, je dirais que la rupture, elle se manifeste même par sa prestation humoristique elle-même.
Mais là, nous étions, par rapport aux Juifs, dans ce que nous venons d'entendre moins d'une minute, dans une forme de rivalité mimétique. Prenons, il y a quelque chose d'évident, évidemment, la solution finale contre moi, dit-il. Bon, la concurrence mémorielle est joue à plein. Mais regardez même le rire ambulant, ça renvoie peut-être inconsciemment au juif errant.
Oui.
Et continuellement, il est, Dieudonné, dans cette espèce de corps à corps mental, si j'ose dire, non ?
Oui, mais il y a des passages beaucoup plus violents que cela. Parce que quand même, dire rire ambulant, bon, il faut que le public capte l'allusion. Il y a d'autres passages où c'est beaucoup plus violent. Mais il y a une chose intéressante quand on compare les moments où, je le cite dans le livre, les moments où des proches, par exemple, fait allusion aux Juifs.
Au tribunal des flagrants délires notamment.
Voilà, mais tribunal des flagrants délires.
Là, il y a un pacte qui fait que nous savons que Desproges, qui, comme vous venez de le dire, ne s'est pas répandu hors scène dans des propos orduriers, nous savons que cette ambivalence n'est pas haineuse.
Voilà, c'est toute la question. Quand peut-on dire que l'humoriste est insoupçonnable ? C'est toute la question. Et je cite cet excellent passage du livre de Gay-Luc, le dessinateur du chat, là, qui a fait un petit livre, Peut-on rire de tout, en reprenant justement l'expression de Desproges. Et il a un passage sur les Juifs. Et il raconte, bon, enfin, je le dis, je le raconte dans le livre.
Mais ça traite précisément de ce thème d'être insoupçonnable.
C'est ça. Et alors, son ami juif lui dit, tu sais, celui qui dit que une personne a des grandes oreilles, un nez crochu, de grands yeux, etc. Celui-là, c'est un antisémite. Et alors lui, il lui répond, il lui dit, bon, écoute, on peut pas dire que ton physique soit neutre. Et à ce moment-là, l'ami juif, il dit, mais toi, tu es insoupçonnable. Bedos est insoupçonnable. Il fait son sketch à Marrakech, sur Marrakech. Bon, il y en a qui comprennent pas, qui viennent lui dire, t'as cassé du bougnoule, c'est très bien. En fait, c'était pas ça qu'il voulait faire, mais on sait que Bedos est insoupçonnable. Son fils Nicolas Bedos, qui a fait d'ailleurs des sketchs extrêmement outranciers, je dirais, mais d'une outrance vraiment très limite, comme on peut dire. De ce point de vue-là, on sait aussi qu'il est insoupçonnable, Desproges est insoupçonnable. Tandis que Dieudonné, de par toutes les déclarations qu'il a faites, de par la deuxième partie, si on peut dire, enfin, de ses sketchs, hein, avec cette rupture, plus tout le... Toutes ces déclarations qu'il a faites hors scène ou dans des émissions de talk show, etc., fait qu'il n'est plus insoupçonnable.
Néanmoins, sinon lui-même, du moins ses défenseurs les plus intellectuels et agiles, vont jusqu'à chercher, vous savez, la parésia, le franc-parler des cyniques de l'Antiquité. Foucault, c'était son dernier cours au Collège de France, a écrit là-dessus le courage de la vérité. Et ils vont chercher du côté de cette pratique qui a connu des échos du dandysme au mouvement punk en passant par l'anarchisme révolutionnaire ou l'agression forcenée propre aux surréalistes. Donc, ils se réclament de quelque chose qu'il faut savoir pouvoir, me semble-t-il, récuser.
C'est le grand problème du droit à l'outrance dans l'humour et de savoir justement s'il doit avoir des limites ou pas. Donc un humoriste qui se lance dans l'outrance sans limite pourra toujours se réclamer de ça. Il pourra toujours dire qu'il y a toute une histoire, toute une tradition qui fait que quoi qu'il arrive, comme disait Charbes à propos des religions, quoi qu'il arrive, on rentre dedans. Et donc c'est le risque qu'il prend, mais il en a l'effet de retour. Mais c'est pas à moi de juger. Moi, j'essaye de montrer comment les choses fonctionnent. Après, s'il doit y avoir procès, la justice doit s'en emparer, à mon avis, plus que le politique, d'ailleurs, qui ne devrait pas avoir à intervenir là-dedans. C'est à la justice d'intervenir. Mais il faut quand même prendre conscience que un effet humoristique est toujours une arme à double tranchant. Et que l'effet de provocation est construit par celui qui le reçoit. Évidemment, comme à l'époque des iconoclastes, on peut avoir l'intention de provoquer. Mais comme dit le caricaturiste Lou, il dit « c'est une affaire technique, la provocation, ça s'apprend ».
C'était Tire ta langue, une émission d'Antoine Perrault avec Patrick Charaudeau pour Humour et engagement politique, un livre collectif publié aux éditions Lambert-Lucas à Limoges. Prise de son, Éric Boisset. Réalisation, Laetitia Coya. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter, télécharger, voire commenter en ligne cette émission sur le site de Tire ta langue, niché dans franceculture.fr. Je vous donne rendez-vous à la rentrée prochaine en septembre. Pour l'heure, il est temps de retrouver Charles Dantzig, secret professionnel. Thank you.